Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
Figure de l'ombre de la conquête du Canada, puis navigateur du Pacifique au nom de la France. Ici André Martineau à Aujourd'hui l'Histoire, Louis-Antoine de Bougainville.
Lorsque Montcalm, désespéré de voir que la métropole ne s'occupe pas de lui, de voir qu'on l'abandonne, de voir que ses canons n'ont plus de quoi tirer, qu'il n'a pas assez de poudre, qu'il n'a pas assez de vivres, qu'il n'a pas assez d'hommes, il va chercher un homme de confiance, et c'est le jeune Bougainville, 25 ans, qu'il va envoyer en France pour chercher des secours.
L'aventurier et médecin français Alain Bombard au micro de Radio-Canada le 24 mai 1989. Bougainville, aide de camp courageux du général Montcalm, qui l'envoie chercher des secours en France. C'est le même Bougainville qui aurait pu changer le destin de la Nouvelle-France sur les plaines d'Abraham, dit-on souvent, si seulement il avait pu rejoindre la bataille au bon moment. C'est toujours Bougainville, homme de science et brillant mathématicien, qui se démarque à partir de 1766 comme le premier explorateur français à compléter un tour du monde. Bougainville, enfin, c'est l'écrivain à succès, auteur de carnets de voyage qui marqueront les esprits au temps des Lumières.
Le paradis existe. C'est une île de l'autre côté de la Terre. Ses propos enthousiastes sont ceux d'un grand navigateur, le premier Français à avoir effectué un tour du monde. Cette expédition, lancée peu avant la Révolution française, annonce un changement d'époque. Elle embarque un prince et de grands savants. Leur mission, mesurer le monde, découvrir des contrées inconnues et de nouvelles richesses. Dans les mers du Sud, ils vont poser le pied sur une île digne du Jardin d'Éden. Peuplé d'hommes simples et doux, aux mœurs d'une grande liberté. Le mythe de Tahiti était né. Comment s'est construit ce mythe? Correspond-il à une réalité historique ou au fantasme d'un explorateur? Cet explorateur a donné son nom à une plante exotique qui a conquis le monde. Louis-Antoine de Bougainville.
Un extrait du documentaire « Bougainville, le voyage à Tahiti » de la chaîne Arte, produit en 2019. Pour revenir sur la destinée de ce navigateur, j'accueille Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC. Éric Bédard, merci d'être là aujourd'hui.
Merci.
Donc, on commence avec ce moment où Montcalm envoie Bougainville pour représenter la Nouvelle-France à Versailles. C'est un rôle assez prestigieux. Dans l'extrait, on parlait de son âge aussi, 25 ans. Comment on peut décrire le personnage à cette époque-là et comment peut-on comprendre qu'on accorde un rôle aussi prestigieux à un officier de cet âge-là?
C'est une très bonne question. Il a en fait 27 ans au moment de son départ. Pourquoi? Oui, on dit, dans l'extrait, on dit que c'est un homme de confiance. Mm-hmm. Indéniablement, il y a des bonnes relations entre Bougainville et Montcalm, qui est son patron. Il est son aide de camp. Mais si Montcalm le choisit, c'est surtout parce que c'est un jeune homme très, très bien réseauté. Alors, Bougainville est né à Paris en 1729. Il est issu d'une famille qui a été récemment anoblie en 1741. Il est d'une famille de juristes. Son père était juriste, notaire. Son frère aîné, Jean-Pierre de Bougainville, était le Bougainville le plus connu au moment de la guerre de Sept Ans. Il a été élu à l'Académie française au milieu des années 1750. Et donc, quand on était issu d'une famille qui avait été anoblie récemment, il fallait faire ses preuves. On distinguait bien à l'époque la noblesse de robe, donc les serviteurs de l'État à qui on donnait des titres, qui étaient souvent aussi issus d'une certaine bourgeoisie, et la noblesse d'épée, qui étaient vraiment des vieilles familles aristocratiques qui, elles, pouvaient plus difficilement déplacé. Faisait partie des meubles de l'Ancien Régime. Mmh. Alors que quand on était issu d'une famille comme celle de Bougainville, il fallait faire ses preuves. Or, faire ses preuves dans le cas des Bougainville, c'était par le savoir, par la science, par la littérature. C'était le cas de son frère aîné de 7 17 ans, Jean-Pierre, qui est un peu son modèle à Louis-Antoine de Bougainville. Et donc, c'est un peu par cette voie-là que Louis-Antoine de Bougainville va tenter de percer, et par l'armée. Et ça, c'était un choix un peu différent par rapport à sa famille. Donc, choisir l'armée et même... d'une certaine façon, le département de la marine, puisque c'était beaucoup lié, hein, les colonies relevaient de la marine, et les spécialistes disent que c'était justement une voie pour monter plus vite, pour se distinguer plus facilement, parce que l'armée de terre était plus populaire auprès des vieilles familles aristocratiques, alors que la marine, elle l'était moins. Et donc, il choisit cette voie-là. Juste un exemple de réseautage.
Oui.
Sa mère biologique, sa mère était décédée quand il avait 5 ans, sa mère biologique était la sœur d'un intime de Madame de Pompadour, qui a été responsable des postes. Donc, il alimentait probablement en potin, hein, Madame de Pompadour. Et l'autre, sa mère, sa belle-mère, donc la deuxième épouse de son père, Catherine Hérault de Séchelles, était une ex-épouse d'un lieutenant de police, un commissaire de police, et elle était liée par sa parenté à un secrétaire d'État à la marine, un certain Maurras, à la fin des années 1750. Malheureusement, pour Bougainville, il va être en poste uniquement une année. Donc, c'est vous dire à quel point il avait des personnages dans l'entourage du roi auxquels il pouvait avoir accès et donc peut-être même accès au cœur de la décision au gouvernement à Versailles.
Mais c'est ça, par son intelligence, il aurait pu être mathématicien. Il a aussi été un moment en appui à l'ambassadeur français à Londres, mais il va se retrouver militaire et assez vite, il va se retrouver au Canada comme maître de camp de Montcalm. Pour clarifier en quoi consiste ce rôle-là, on ne parle pas d'un valet, on parle vraiment d'un officier.
Oui, tout à fait, un officier de haut rang. C'est un peu mystérieux les circonstances dans lesquelles il va être nommé. Il va en effet accompagner un ambassadeur, une mission diplomatique à Londres, parce que Louis XV voulait absolument obtenir la paix avec l'Angleterre. Il va même se faire des relations à Londres, il va être admis à la London Society, Royal Society, parce qu'en effet, il avait publié un traité sur les mathématiques. Alors oui, donc il arrive là, c'est un officier de haut rang, c'est un homme de confiance de Montcalm, il va participer aux grandes batailles de 56, 57, 58, Carillon, William Henry, il va participer et entre ces grands moments d'affrontement, qui sont toujours l'été, il va avoir de longs mois d'hiver où il va écrire énormément de rapports, des rapports sur l'état de la colonie. Il va tenir aussi un journal qui est très intéressant, qui est très riche d'informations. Il va commencer à faire quelques observations sur les Autochtones, mais il n'a pas encore la qualité d'ethnographe qu'il aura plus tard. On en reparlera tout de suite. Oui. Il fait quelques observations sur les Canadiens, mais on voit qu'il les regarde à distance. On voit qu'il ne les connaît pas très bien personnellement. Il se mêle pas à la population canadienne locale. Donc, il a un peu des préjugés. Hein. Il assimile beaucoup les Canadiens aux Autochtones, avec tous les préjugés de dire que les sont des gens un peu fantasques, des gens robustes, pour faire la guerre, des gens, des bons chasseurs qui tirent bien du fusil, mais des gens difficiles à contrôler, difficiles à diriger. Et il va même dire que, et c'est une citation célèbre, finalement, on n'est plus face à des Français, là. On est face à des gens complètement différents, un autre peuple. Ça va beaucoup nourrir l'historiographie que cette perspective.
Oui.
Et voilà. Donc,
après son passage au Canada, il y a plusieurs qui vont dire qu'il avait peut-être un regard hautain ou arrogant sur la population canadienne. D'où vient ce préjugé-là? Est-ce que c'était ancré dans la réalité?
Bien, c'était le préjugé de la plupart des hauts officiers qui débarquaient. Ils regardaient ça. Ils regardaient ces colons ou ces descendants de colons comme, des gens sympathiques, mais un peu rustres. Hein? Dans le cas de Bougainville, ça ressort assez clairement. Un peu contaminé par l'air de liberté du continent et les Autochtones qui avaient des pratiques de guerre qui agaçaient les officiers français, qui agaçaient quelqu'un comme Bougainville ou aussi comme Montcalm. Autrement dit, les écrits de Bougainville sont un peu décevants au plan ethnographique, au plan du regard d'un anthropologue. Ouais. Même chose pour les Canadiens. On pourrait se dire, il dit qu'on est un peuple différent, mais en quoi?
Ouais.
En quoi les Canadiens sont-ils?
C'est superficiel comme regard.
C'est assez superficiel, malheureusement, oui.
Ouais. Bougainville va revenir au pays à cause d'une blessure après la bataille de Carillon. Montcalm va le charger d'une mission à Versailles, comme on l'évoquait plus tôt. L'historien John Dickinson racontait cet épisode à l'émission Présent, le 20 mai 1982, au micro de Louis Martin.
Par la suite de cette blessure, on le rapatrie en France, où il doit porter un mémoire sur l'état du Canada au ministre pour essayer de plaider la cause du Canada.
Pour obtenir plus de troupes pour le Canada.
Plus de troupes, plus de fonds, etc., des renforts. Le ministre le regarde venir et dit... Mon cher monsieur, quand le feu est pris à la maison, on ne sauve pas les écuries. D'après la tradition, Bougainville répond quelque chose comme « Je vois bien par vos paroles, monsieur, que vous êtes un cheval. » ce qui donne un peu le ton du bonhomme. C'était oui. quelqu'un qui ne respectait pas trop nécessairement l'autorité, comme tous les philosophes du 18e. Et ensuite, il va retourner au Canada pour la dernière campagne en 59.
Il sera ici en septembre 59, lorsque Montcalm perdra le Canada aux mains des Anglais.
C'est ça. Il va être en arrière de Québec, sur la route de Sainte-Foy. Il devait garder, les Français avaient mis leurs munitions plus en amont du Saint-Laurent, pour pas que les Anglais puissent les atteindre. Et Montcalm va se précipiter au devant de Wolfe sur les plaines et ne pas attendre les renforts qui auraient pu arriver, menés par Bougainville. Et ça aurait donné un avantage terrible pour Montcalm et les troupes françaises auraient probablement pu pousser Wolfe par-dessus les falaises.
Alors, c'était John Dickinson en 1982. Éric Bédard, est-ce que c'est vrai cette idée-là qui revient souvent de dire que Bougainville aurait pu être l'homme qui sauve la Nouvelle-France lors de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759?
Un mot d'abord sur cette mission.
Oui.
Je réponds immédiatement à votre question, mais un mot
d'accord,
sur cette
revenons-y.
Mission. Il arrive en effet au début de l'année 1759 à Versailles. Il va passer 2 mois là. Il va rencontrer de Madame de Pompadour parce qu'on a vu qu'il a des liens par sa mère biologique. Il va rencontrer plusieurs ministres. Il va même rencontrer le roi qui va lui donner une médaille, mais il n'y a pas eu d'échange vraiment sur ce qu'il fallait faire. Et en effet, il va rencontrer ce ministre tristement célèbre de la marine qui va lui dire, ben voilà, on ne cherche point à sauver les écuries quand le feu est à la maison. Mais donc, les Français vont envoyer 400 hommes, mais les bateaux vont se perdre. Ça n'arrivera pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas du tout à la hauteur de ce que souhaitait Montcalm. Donc, en effet, il va revenir et là, il va répondre aux ordres de Vaudreuil et de Montcalm, surtout de Montcalm. Il va faire partie, il va être à la tête d'une espèce de troupe d'élite qui va beaucoup se promener durant l'été 59 le long des rives du Saint-Laurent parce que les Anglais bougeaient beaucoup, cherchaient un lieu pour débarquer.
Oui, faire une incursion
exactement,
de l'autre côté.
Exactement. Ils vont aller plus vers l'ouest. Hein. Ils vont tenter même un débarquement dans la région de Neuville d'aujourd'hui, on appelait ça à ce moment-là Pointe-aux-Trembles, vont être repoussés par Bougainville. Et en effet, le 13 septembre 59, Bougainville est un peu à l'extérieur, autour de Cap-Rouge, avec des troupes d'élite, quelques milliers d'hommes. Et en effet, on a dit que s'il avait réussi à rejoindre Montcalm et prendre Wolfe à revers, ça aurait pu fonctionner. Mais ça n'a pas fonctionné. Bon, ça a été visiblement une sorte de malentendu, mais je ne pense pas qu'il est responsable de cette défaite. Le grand responsable, c'est quand même Montcalm qui a lancé les troupes, peut-être un peu trop rapidement, face à Wolfe.
Donc, après la conquête, les officiers, puis un bon nombre de Français sont déportés, reviennent en France.
Oui.
Après la déconfiture, justement, Bougainville va vouloir donner de nouveaux territoires à la France. Il va jeter son dévolu sur les îles Malouines, qui étaient connues des marins de Saint-Malo. Donc, on se trouve là, vraiment au sud de l'Atlantique. Un autre extrait à ce sujet-là, le conservateur Guy Vadeboncœur s'exprime chez Joël Lebigot le 13 mai 2001.
Bougainville, par son séjour qu'il a fait à Londres au moment où il était secrétaire de l'ambassade de France, un peu avant la guerre de 7 ans, c'est à peu près l'intérêt que les Anglais ont d'aller fouiller dans le Pacifique, aller voir un peu si on ne peut pas mettre la main sur quelques îles et établir là vraiment un petit empire qui permettrait de pouvoir se rendre vers les Indes en passant par le Cap Horn. Et Bougainville veut reprendre la politique coloniale française et tout d'abord va obtenir du roi la permission d'établir une colonie aux îles Malouines.
Ah bon, bon.
Et c'est une façon pour lui de régler le problème des déportés acadiens. Donc, ces Acadiens qu'il va chercher à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, et qu'il amène aux îles Malouines. Les Anglais se plaignent, le roi de France n'est pas très, très heureux de ça, et finit par rétrocéder les îles Malouines aux Espagnols.
Ah bon, 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 bon. Et avant que ça devienne les Falklands.
Voilà.
Ah bon.
Et à ce moment-là, Bougainville dit, ben maintenant, permettez-moi de régler la question diplomatique de rétrocession aux Espagnols, mais par la suite, moi, je vais faire mon tour du monde.
Alors, ouais. Guy Van Bonker, en 2001, au sujet de cette implantation sur les îles Malouines qui va durer à peine quelques années et qui va être remplacée par, justement, l'idée d'un tour du monde. Ouais. Quelle est l'ambition, alors, de Bougainville et Éric Pédard?
Bon, alors, c'est un peu nébuleux. D'abord, la mission première, c'est de redonner les Malouines aux Espagnols.
Ouais.
Les Espagnols étaient frustrés de ça, ils n'étaient pas d'accord. C'était des alliés, donc, bon, c'était comme un malaise entre les deux pays. Donc, rétrocéder les Malouines aux Espagnols et ensuite, oui, en effet, un tour du monde. Le véritable objectif, moi, c'est ma compréhension, même si, évidemment, il y avait à bord du bateau, il y avait un cartographe, un astronome, un prince mondain un peu libidineux qui s'est bien amusé à Tahiti, on en reparlera.
Un botaniste, etc.
Un botaniste qui vient avec sa conjointe, mais qui est déguisée en homme. C'est incroyable,
Jeanne
d'ailleurs.
Barret.
Jeanne Barret. Alors, la véritable mission, c'était d'accéder aux terres australes, à la fameuse Australie, mais qui était très difficile d'accès pour les marins de l'époque parce qu'il y avait un barrage de coraux d'à peu près 2300 kilomètres et ça serait très compliqué. Son but, c'est de rétrocéder, c'est d'aller vers les terres australes. Il voulait aller à l'île de Pâques, mais là, c'est un croche qui est
un
détour
long.
Un peu trop long. Il craint de manquer d'hommes. Et donc, en effet, il va faire le tour du monde. Il va visiter un certain nombre d'endroits, par exemple, en Patagonie, on dit que les hommes sont des géants, alors il va démentir cette légende. Il va aussi aller au Paraguay, il va visiter des missions jésuites. Il va aussi aller jusque dans l'extrême sud de l'Amérique du Sud, va découvrir d'autres peuples indigènes, qui va dire qu'ils sont petits, qu'ils sont maigres, qu'ils sentent pas bon. Il va poursuivre ensuite son voyage dans l'Atlantique. Je vous dis ça parce que sa vision des autochtones, des indigènes, n'est pas toujours celle du bon sauvage. Parce que justement, si on va...
On va souvent associer cette idée-là à ses écrits par la suite.
Tout à fait. Et oui, parce que justement, il va, durant son voyage, arriver à Tahiti. Et dans le livre « Voyage autour du monde » de Bougainville, les chapitres qui ont le plus retenu l'attention des Européens et des Français de l'époque, c'est toute sa description qu'il fait de cette île, qu'il décrit comme un véritable paradis. Et il faut voir qu'à l'époque, les philosophes, quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, philosophe essaie de réfléchir à ce que ressemblait l'humanité avant la civilisation. Qu'est-ce que c'était l'état de nature? Au XVIIe siècle, le philosophe Thomas Hobbes avait dit « L'état de nature, c'est la guerre. C'est la guerre permanente. L'homme est un loup pour l'homme. Et donc, il faut un Léviathan, il faut un roi pour mettre de l'ordre et qu'on puisse retrouver une forme de liberté par le consentement. » Jean-Jacques Rousseau dit non. Pas du tout. L'état de nature, c'est le paradis. C'est la civilisation qui a corrompu l'homme, avec notamment le droit de propriété. Bon. Alors, dans le fond, Bougainville lui dit, oui, très bien. D'ailleurs, il y a des piques contre Jean-Jacques Rousseau dans son livre sur le voyage autour du monde. Il dit, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, le paradis. Il est à Tahiti. Ça fait rêver les gens. Ça fait vraiment rêver. Il parle de la beauté des lieux. Il parle des êtres sains, bien proportionnés, qui sont beaux, en excellente santé. Évidemment, la beauté des femmes. Il décrit aussi la bonté des habitants. Il n'y a pas de guerre, dit-il, à Tahiti. Il y a des guerres contre les îles voisines, mais entre eux, il n'y a pas de guerre. Par la suite, il va nuancer tout ça quand il va mieux connaître un indigène, un Tahitien, qui va ramener en bateau avec lui un certain Aoturu. Évidemment, il insiste sur la liberté des mœurs, les mœurs très libres des Tahitiens, notamment la polygamie ou enfin la grande liberté sexuelle des femmes. Ça va vraiment plaire à un des membres de l'équipage, le prince mondain un peu libertin, qui va rapporter des expériences qu'il fera avec des Tahitiennes.
Voilà.
Ça va faire aussi beaucoup sourire les gens. Alors, il y a tout un univers, un imaginaire de la civilisation d'avant, d'un monde d'avant. Il va prolonger les thèses de Jean-Jacques Rousseau avec cette description d'un monde extraordinaire, d'un monde bon, d'un monde sain, où les êtres s'entendent bien. Et voilà. Donc, il va revenir de ce voyage qui va durer quand même longtemps.
Trois ans, exactement. Il revient en 1769.
Exactement.
Mais plusieurs vont décrire le legs scientifique du voyage comme étant assez maigre, c'est-à-dire qu'il revient avec des descriptions, avec quelques plantes, dont une qui va devenir le bougainvillier, qui va se répandre partout dans le monde. Mais autrement, on ne parle pas de grand voyage à la Darwin qui va venir plus tard. Mais sinon, c'est cette idée-là, peut-être philosophique, qui va être répandue, qui est peut-être son legs principal.
Oui,
là.
Parce que le biographe de Bougainville, il s'appelle Étienne Taimit, il est convaincu, lui, que ce voyage, il y a un lien entre ce voyage et la défaite de 1759-60, le traité de Paris. Mm-hmm. Donc, il avait comme grande ambition de donner à la France des nouvelles terres, puisqu'on a perdu l'Amérique du Nord.
C'est ça.
Il faudrait s'en trouver de nouvelles.
D'ouvrir le monde colonial vers le Pacifique.
Exactement. Donc, c'était les Malouines au début, mais ça ne fonctionne pas. Ce sera les terres australes, mais là, il n'y a pas accès. Ce n'est pas un assez bon marin pour accéder à ces terres. C'est très, très compliqué. Ce sera James Cook.
Oui.
Qui finalement, lui, quelques années plus tard seulement, y arrivera. En effet, il revient avec peu de choses, mais il revient avec des notes, avec un journal de bord qui va se transformer en un livre. Et ce livre sera un grand succès, mm-hmm. va faire sa renommée. Et au fond, il y a pas beaucoup de livres qu'il a écrits, Bougainville, de son vivant.
Oui.
On a publié par la suite ses écrits sur le Canada, mais c'était des écrits un peu épars, c'était des mémoires et c'était pour lui, hein, c'était son journal. Mais ce livre va vraiment marquer les esprits. Il va ramener de Tahiti Aoutourou, qui est ce Tahitien, mm-hmm. qui va embarquer avec lui. Au départ, cet Tahitien, je pense qu'il n'avait pas du tout envisagé qu'il irait si loin. Et il va être la coqueluche des salons parisiens pendant quelques mois, mais les gens vont vite s'en désintéresser. Et donc, par la suite, après, une fois ce grand voyage qui va faire sa renommée, il va se distinguer durant la guerre d'indépendance des États-Unis, une défaite, une victoire. Et il va devenir un peu un grand personnage de France. Il va passer à deux cheveux d'être guillotiné en 1794, comme bon nombre de nobles, même si c'était des nobles de récente extraction. Il va y échapper de justesse. Il va se marier assez tard, 52 ans. C'est un homme à qui on attribue beaucoup d'amantes, un homme assez libre aussi, peut-être qui était influencé par les Tahitiens. Et il va se marier à 52 ans, aura trois fils qui seront autour de lui lors de son décès le 31 août 1811.
Et il va donc vivre à une époque où il y aura la guerre de 7 ans, il va y participer, puis ensuite il y a les grandes explorations du Pacifique. Tout ça toujours sur fond de compétition coloniale ou de rivalité coloniale. Est-ce qu'on peut le voir comme un pur produit de son époque, dans le fond?
Alors, c'est ça. Alors, c'est à la fois quelqu'un qui participe de cette grande ambition coloniale, de cette France qui rayonnerait partout dans le monde, et en même temps, il participe de ce grand mouvement des Lumières. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que quand on parle des Lumières, on pense à un Denis Diderot qui était très anticolonialiste, qui trouvait que c'était une abomination, d'ailleurs, qui va écrire des suppléments au voyage de Bougainville.
Oui, qui va commenter l'année d'après le voyage de Bougainville, donc son livre le plus célèbre.
Exactement. Ouais. Donc, c'est un homme des Lumières, mais qui voulait justement, comme bon nombre d'hommes des Lumières, répandre les Lumières, donc répandre la civilisation pour la France. Et lui a jugé que par le savoir, parce qu'il était scientifique, par la navigation, il a dirigé des expéditions, celle-là, il allait peut-être y contribuer. C'était un homme ambitieux, mais très brillant, qui avait appris l'anglais aussi quand il avait été justement à Londres. Donc, c'est un homme brillant, c'est un homme des Lumières, un esprit, on pourrait dire, un peu de type de la Renaissance, qui s'intéressait à tout. Une belle plume, son livre est encore très agréable à lire, je le suggère à nos auditeurs. Il est disponible en livre de poche.
Alors, Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, merci pour ces quelques minutes au sujet de Louis-Antoine de Bougainville. C'est intéressant justement pour revenir sur le contexte de la guerre de 7 ans, mais aussi ce contexte scientifique et colonial du 18e siècle. Merci d'être venu nous voir.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la préparation et à la mise en onde. En remplacement de Maxime Coutier, je m'appelle André Martineau et à très bientôt.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.